Voilà, je vous invite ce matin à ouvrir votre Bible ou simplement à consulter la feuille de culte puisque le texte que je vais vous lire se trouve au dos de la feuille de culte pour ce matin. Et nous allons lire dans Ésaïe chapitre 9 à partir du verset 5. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné. Et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Jusque-là. Seigneur, que cette parole, qui est parole de vie, eh bien, soit aussi vie pour nous ce matin, que nous puissions l'entendre, la recevoir et nous mettre à ta suite. Amen. Je ne sais pas quelles sont vos attentes pour ce Noël. Comment Noël résonne dans votre actualité personnelle ou dans l'actualité de la France. Le texte que nous venons de lire évoque l'arrivée d'un Messie, d'un Sauveur. D'un Sauveur qui est là pour nous sauver de la détresse de ce monde. Et quand on imagine quelqu'un qui puisse venir nous sauver de la détresse de ce monde, on imagine un homme fort, un homme qui a de la poigne. Et là, surprise, ce n'est pas un homme fort qui nous est annoncé en priorité, mais c'est un enfant. Nous poursuivons ce matin la méditation que nous avons commencée ces deux derniers dimanches sur les chapitres 7 à 9 du livre d'Ésaïe, qu'on appelle le livret de l'Emmanuel, livret qui va jusqu'au chapitre 12. Ce texte a été écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ésaïe parle à un peuple qui se trouve oppressé, qui vit dans la crainte et dans l'angoisse. Un peuple qui n'a plus de perspective d'avenir. Le pays où se trouve Ésaïe est un pays qui est dans le chaos et la désolation. Un pays qui est humilié. Les gens sont à bout de ressources. Ils ont besoin d'une délivrance. Et au début du chapitre 9, Ésaïe commence en disant « Les ténèbres ne régneront pas toujours. Une grande lumière va briller et va chasser cette obscurité. » Et par ténèbres, bien sûr, il faut comprendre les ténèbres du monde environnant, une situation qui pouvait être difficile sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire. Mais ces ténèbres qui nous sont décrites ici sont aussi et avant tout des ténèbres spirituelles, les ténèbres du péché, les ténèbres qui viennent du refus d'écouter Dieu. Et comme ces ténèbres ont une nature spirituelle, la réponse apportée à ces ténèbres est aussi de nature spirituelle. Et la réponse nous est donnée par l'arrivée d'un enfant. Cet enfant nous a été présenté déjà au chapitre 7. Il portait un nom, Emmanuel. Dieu avec nous, qui était comme un signe comme quoi Dieu n'allait pas abandonner son peuple à ses ténèbres. Dieu allait intervenir d'une manière puissante. Et puis, lorsque nous avons parcouru ces chapitres 7 et 8, nous avons vu qu'une lumière allait arriver, une lumière qui serait la lumière des nations, qui serait cet Emmanuel annoncé, et que Dieu, dans sa grâce, après tout un temps de jugement, eh bien, annonçait une perspective nouvelle, la perspective d'une grande moisson, d'une moisson spirituelle. Dieu annonçait que le peuple de Dieu allait s'élargir, que les païens allaient pouvoir intégrer son peuple et que Satan allait finir par perdre le combat. La guerre qu'il opposait au peuple de Dieu, il allait la perdre. Le début du chapitre 9 nous montre que toutes les armes de Satan vont être brûlées, vont être simplement détruites, ses armes comme l'orgueil, la jalousie, la colère, la volonté de pouvoir, la corruption, le mensonge, tout cela serait livré aux flammes. Et un jour, Satan perdrait sa capacité d'opprimer le peuple de Dieu. Ésaïe nous annonce au début du chapitre 9 que la bataille contre les forces du péché et du mal est engagée, mais que la victoire est déjà assurée. Car, dit-il, et c'est le début de notre texte, car, dit-il, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et cet enfant, l'enfant de la promesse, sera l'instrument de la délivrance. Ésaïe parle de cet enfant comme s'il était déjà là. Il dit « un enfant nous est né ». Il ne dit pas « un enfant va naître ». Ésaïe est tellement sûr de l'arrivée de cet enfant qu'il peut déjà dire « un enfant nous est né ». Il en parle comme d'une promesse déjà réalisée. La naissance de cet enfant est un cadeau de Dieu dans le monde de ténèbres dans lequel Ésaïe vit et dans notre monde de ténèbres. Il est dit, à propos de cet enfant, un fils nous est donné. On peut s'interroger, mais pourquoi a-t-il précisé qu'un fils nous est donné, puisqu'on sait déjà que cet enfant est un garçon? Mais si nous avons besoin d'entendre la précision du fils, c'est qu'il ne s'agit pas de n'importe quel fils. C'est un fils qui naît dans la lignée royale de David. C'est un héritier légitime du trône de David. Et il est dit à propos de ce fils qu'il exercera l'autorité royale. Vous connaissez peut-être le psaume 2, un psaume que l'on dit messianique. Et dans ce psaume, il est question aussi d'un fils qui doit naître. Il est dit que le fils de David héritera de la royauté et qu'il sera fils de Dieu. Le fils de David, dans le psaume 2, est appelé fils de Dieu. Il y a cette attente chez les Juifs d'un Messie qui va apporter la délivrance, qui sera à la fois issu d'une lignée royale et qui sera même issu d'une lignée divine, d'après le psaume 2. Un fils par excellence. Et vous vous souvenez de cette parole de l'évangile de Jean qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde » qu'il a donné son fils unique. Eh bien, c'est bien de ce fils dont il est question ici dans notre texte d'Ésaïe. Un fils qui avait déjà été annoncé il y a bien longtemps avant, lorsque Nathan le prophète s'était rendu auprès du roi David et lui avait dit « Écoute, tu auras, c'est la promesse du Seigneur, tu auras sur ton trône, à perpétuité, un héritier, un descendant, qui va gouverner le royaume de Juda, qui va gouverner le peuple de Dieu. » Le roi David avait incarné cette force qui avait permis d'étendre le royaume. Et son fils Salomon avait incarné cette sagesse qui permettait d'amener la paix dans le royaume. Mais le fils qui est attendu est à la fois un nouveau David qui va étendre son royaume et un nouveau Salomon qui va amener la paix dans ce royaume. Ce fils va amener un règne de paix et de justice. Il porte sur ses épaules une bien lourde responsabilité. On pourrait s'interroger sur la dimension de son royaume. Quel est le royaume sur lequel il va gouverner? Bien sûr, ce royaume, c'est d'abord le royaume constitué du peuple de Dieu. Mais ce royaume est plus vaste que cela. Ce n'est pas juste un royaume terrestre, le royaume sur lequel régnait David. C'est un royaume qui prend une dimension cosmique, une dimension qui s'étend aussi bien dans le domaine du visible que de l'invisible. Il n'y aura plus de limites géographiques à ce royaume. C'est un royaume qui va s'étendre dans le monde entier. L'univers entier sera soumis aux descendants de David. Et quand cette promesse accomplie dans la personne de Jésus, comme le reconnaît l'évangile de Matthieu, quand Jésus va parler en accomplissant cette promesse de son royaume, il va dire ceci: « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Et ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, il va dire « Tout m'a été remis par mon Père. » Et dans l'évangile de Jean, Jésus va dire « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils pour que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. » Donc Jésus se voit l'héritier de cette promesse d'un règne universel. Et lui-même s'approprie cette promesse en disant « Je vais régner sur toute chose. » Je veux régner sur le monde visible comme sur le monde invisible. Et pour bien montrer la nature spirituelle de son royaume, Jésus dira encore en Jean 18, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Quand cet enfant est venu au monde, 800 ans après la promesse, un ange est venu parler à Marie, Marie qui était vierge, comme la mère de l'enfant Emmanuel. Il va lui dire que l'enfant qu'elle va avoir va être conçu du Saint-Esprit, qu'il s'agit bien de cet enfant Emmanuel qui avait été promis par Ésaïe, et que cet enfant devrait être appelé du nom de Jésus. Car l'ange lui dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et Jésus veut dire Dieu sauve. Et c'est ainsi le deuxième nom qui est attribué à Jésus. Le premier, Emmanuel, veut dire « Dieu avec nous ». Donc Jésus, c'est « Dieu avec nous ». Mais le nom de Jésus lui-même veut dire « Dieu sauve ». Et d'autres noms vont encore être attribués, donnés à cet enfant. Et chacun de ces noms, chacun de ces titres sert à décrire la personne de Jésus. Dans la Bible, les noms qui sont donnés servent toujours à décrire le caractère ou la nature d'une personne. Et ici, quatre autres noms nous sont donnés pour décrire la nature de cet enfant. Le premier d'entre eux, c'est « conseiller merveilleux ». Cet enfant est un conseiller merveilleux. Il est le Messie. En tant que Messie, il est roi. Et un roi qui est revêtu d'une sagesse exceptionnelle, une sagesse qui dépasse les possibilités humaines. C'est le sens du terme merveilleux. Merveilleux a la même racine que miracle. Les conseils qu'il va pouvoir donner seront semblables aux conseils de Dieu lui-même. C'est lui qui va établir un plan de paix. C'est lui qui va mener ce projet de paix aussi. S'approcher de Jésus, c'est s'approcher d'un conseiller merveilleux. Il y a là une grande source de réconfort pour nous, parce que nous savons que si nous suivons Jésus, nous sommes au bénéfice de ses conseils qui sont insurpassables. La sagesse en Jésus ne peut être détrônée par aucune sagesse humaine. En Jésus, nous allons trouver tout le réconfort dont nous avons besoin. C'est lui qui peut venir apaiser notre âme. C'est lui qui peut venir guérir nos blessures intérieures. Il est un conseiller merveilleux, bien plus fin, bien plus psychologue que le plus fin des psychologues. Il est celui qui va nous amener sur un chemin de vie et de paix. C'est lui qui va nous entraîner dans un chemin de vie éternelle. Il est un conseiller merveilleux, mais lui-même est une sorte de miracle. Dans sa personne même, il est ce merveilleux conseiller. Et le nom même qu'il porte, merveilleux conseiller, est déjà une indication de son origine divine, une indication de sa messianité. Le deuxième nom qu'il porte, c'est Dieu fort ou Dieu héros. Et ce titre souligne que Dieu est vainqueur. Quand David a exercé sa royauté, il a dû combattre pour élargir les frontières de son royaume. Jésus, qui est un nouveau David, va aussi combattre, non pas avec des armes, mais ce sera un combat spirituel, un combat pour établir le royaume de Dieu. Jésus est un vrai conquérant comme David était un vrai conquérant. Il est le Dieu fort. Et ça montre un côté combatif chez Jésus. Tout le Nouveau Testament met l'accent sur la puissance de Jésus. En Jean 16, Jésus dit lui-même, « Dans ce monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Donc Jésus se présente lui-même comme celui qui remporte la victoire. Il est ce Dieu fort. Est-ce que Dieu fort est une revendication de la divinité déjà? Est-ce qu'en étant appelé Dieu fort, Ésaïe indique que cet enfant à naître est d'origine divine? Tous les évangéliques ne sont pas d'accord entre eux sur ce point, puisque le titre de Dieu pouvait aussi être donné au roi de l'époque. Dieu avec minuscule. Nous avons d'autres textes de l'Ancien Testament qui nous disent que le roi était adopté comme un fils de Dieu. Donc on pourrait imaginer que ce titre de Dieu fort soit simplement un titre qui désigne un roi puissant. Mais un commentateur fameux du livre d'Ésaïe, Edward Young, qui a écrit trois gros commentaires sur le livre d'Ésaïe, souligne, je pense avec pertinence, que quand il est question ici du Dieu fort, c'est la racine « El » pour Dieu qui est utilisée, non pas la racine « Elohim ». Et chaque fois que c'est « El » qui est utilisée dans l'Ancien Testament pour décrire Dieu, c'est toujours à propos de Dieu et jamais à propos d'un humain. Et je pense que cette précision nous invite à penser qu'ici déjà, Ésaïe nous donne une indication comme quoi cet enfant sera d'origine divine. C'est une indication de sa messianité et de sa personne divine. Est-ce qu'Ésaïe se rendait pleinement compte de ce qu'il était en train d'écrire ou de dire? Peut-être qu'il n'avait pas toute la vision que nous pouvons avoir aujourd'hui. Mais il sait en tout cas que ce Messie aura une étendue, aura un pouvoir que nul autre n'a pu avoir jusque-là. Et pour nous, c'est aussi encourageant de savoir que ce Messie qui nous est promis est Dieu fort. Parce que nous sommes dans un royaume dirigé par un Dieu fort, un Dieu qui va remporter la victoire sur les forces du mal. Et cette force se déploie en Jésus. Le troisième titre qui nous est donné, c'est « Père à jamais ». Vous savez peut-être que Staline était appelé le petit père des peuples. Et le terme de père, déjà à l'époque d'Ésaïe, était un titre qui était conféré à des rois. L'enfant qui nous est annoncé ici est décrit comme un père pour son peuple. Et s'il utilise ce titre conféré à des rois, cela implique la royauté pour lui. En tant que père, il va accorder sa protection et son secours à tous ses sujets, à tous ceux sur qui il gouverne. Il va prendre soin d'eux. Il va les protéger. Comme un bon berger, il va s'occuper d'eux. Le psaume 103 nous dit « Comme un père est plein d'amour pour ses enfants, le Seigneur est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. » Le Messie est un père pour nous. Il nous aime. Il veille sur nous. Dans l'Ancien Testament, on souhaitait généralement longue vie au roi. On lui souhaitait un règne éternel. Ici, il est dit que cet enfant est un père à jamais, un père pour toujours. Il est envisagé que le règne qu'il va exercer ne cesse jamais. Pour l'éternité, il va être un père pour son peuple. Le dernier titre qui est donné à cet enfant, c'est « Prince de la paix ». Le titre « Dieu fort » mettait l'accent sur la victoire, sur la force. Le titre « Prince de la paix » met par contre l'accent sur son rôle pacificateur. C'est le nouveau Salomon. Salomon n'a pas versé une seule goutte de sang au cours de son règne. Il exerçait un règne de paix et de même, Jésus vient pour apporter la paix de Dieu pour tous les hommes. Généralement, quand les gouvernants cherchent à se mettre en valeur, à montrer leur titre de gloire, ils le font par le biais de la guerre. C'est en remportant des guerres qu'ils deviennent célèbres. Cet enfant deviendra célèbre non pas en faisant la guerre, mais en faisant la paix et en apportant la paix. Son royaume va grandir, comme à l'époque de David, mais son royaume va prospérer aussi dans la paix, comme à l'époque de Salomon. Et cette paix n'est pas simplement la cessation des hostilités. La vraie paix est une paix qui établit de la justice dans les relations, une paix qui établit un bien-être, qui établit un monde nouveau. La cessation des hostilités, ce n'est que les préludes à la paix, ce n'est pas encore la paix. Établir la paix, c'est établir des conditions qui soient désirables, des conditions d'existence qui soient durables. Il ne faut pas seulement arrêter la guerre, mais il faut traiter le problème de la guerre à sa racine. Et qu'est-ce qui se trouve à la racine de toutes les guerres? C'est le problème du péché et du mal. Et ce mal se niche au plus profond de l'être humain. Et ce n'est que lorsque le péché aura été éliminé que la paix véritable va pouvoir venir. Et pour que le péché de l'homme soit définitivement éliminé, il faut qu'une paix soit établie entre Dieu et l'homme. Non seulement entre l'homme et Dieu, mais aussi entre Dieu et l'homme. Parce qu'il y a une forme d'inimitié qui existe entre Dieu et l'homme. Et Dieu est en colère contre l'humanité à cause de son péché. Il faut que cette inimitié soit éliminée. Il faut que le péché, pour cela, disparaisse. Et comment ce péché va-t-il pouvoir disparaître? Grâce à l'action de cet enfant qui va naître. Nous lisons sous la plume de l'apôtre Paul que ce péché va pouvoir disparaître grâce au Messie. Paul écrit ceci en Romains 5. « Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc nous pouvons être en paix parce que nous avons été déclarés justes. C'est le prince de la paix qui permet les conditions de la paix véritable. En Colossiens, il est écrit « Vous étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre façon de penser et par vos œuvres mauvaises. Mais Jésus-Christ vous a maintenant réconciliés par la mort dans son corps de chair pour vous faire paraître saints devant lui, sans défaut, sans reproche. » Donc c'est le prince de la paix qui va accomplir toutes les exigences qui permettent de régler l'inimitié entre Dieu et les hommes. Jésus est le prince de la paix. Et c'est pourquoi les anges ont chanté à Noël « Paix parmi les hommes ». Paix parmi les hommes. Donc quand nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons comment Jésus a porté à perfection ces quatre titres de gloire que nous venons de mentionner. Nous voyons comment Jésus est pour nous un merveilleux conseiller qui est capable de nous guider dans la vie de tous les jours. Nous voyons comment il est un Dieu fort, capable de nous sortir de nos ténèbres. Nous voyons comment il est un Père à jamais qui va veiller sur moi en m'accordant sa protection. Nous voyons comment il est un prince de paix qui est venu m'apporter la paix avec Dieu, dans ma vie avec lui et dans mes relations avec les autres. Voilà pour les quatre titres qui sont donnés à cet enfant. Et maintenant, le verset 6 va simplement faire écho au caractère de cet enfant. Il va nous dire ce que cet enfant va faire. Tout comme cet enfant porte quatre titres, il y a quatre descriptions de son action qui nous sont faites au verset 6. D'abord, Esaïe nous dit que cet enfant va étendre sans fin sa souveraineté. Son règne va débuter au moment où il va naître, mais son règne va s'étendre s'étendre de plus en plus, jusqu'à ce que plus rien n'échappe à son gouvernement, jusqu'à ce qu'un jour tout soit soumis à ses, et tout soit mis sous ses pieds. Un règne qui n'aura jamais de fin. C'est le règne du Dieu fort. La deuxième chose qui nous est dite au verset 6, c'est « Il donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. » Ici, nous avons une description du prince de la paix. Ce prince de la paix n'a pas pris le pouvoir par un coup de force ou un coup d'État. Il est simplement le descendant légitime. Un descendant qui va sans doute réunir la maison de David, qui avait été divisée entre le royaume du nord et le royaume du sud. La paix, c'est déjà la réunification. Mais la paix va au-delà. Cette paix ne sera plus réservée seulement au peuple d'Israël. Elle va s'étendre jusque dans les nations païennes. Lorsque Christ va mourir à la croix, il va accomplir objectivement toutes les conditions nécessaires à ce que la paix puisse être établie entre Dieu et les hommes. La troisième indication qui nous est donnée au verset 6, c'est que sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice dès à présent et pour l'éternité. Un royaume fondé sur le droit et la justice, n'est-ce pas ce qu'incarne cet enfant qui est décrit comme un merveilleux conseiller, comme quelqu'un qui sera parfaitement sage dans ses décisions? On ne pourra jamais rien contester. Jésus exercera sa souveraineté de manière légitime et parfaite. Le royaume de Jésus ne va pas s'étendre par l'usage de la force ou des armes. Il ne va pas s'étendre par l'usage de la violence et par des abus de pouvoir, mais uniquement par la paix, uniquement par l'action du Saint-Esprit dans la vie des hommes et des femmes qui vont le suivre, uniquement par le moyen de la prédication de l'Évangile. Malheureusement, au cours des siècles, et l'histoire de l'Église nous l'apprend, des hommes ont voulu fabriquer ce royaume. Ils ont cherché à établir un royaume de justice et de paix par leurs propres moyens. Et ce qui est paradoxal, pour établir un royaume de justice et de paix, ils ont utilisé la violence. Nous sommes bien loin de ce qui est annoncé ici. Le royaume dont il est question est un royaume qui est gouverné par le Messie. Ce n'est pas un royaume humain, c'est un royaume spirituel. Ce n'est pas un royaume temporel qui prendra fin, c'est un royaume éternel. Certains chrétiens pensent que ce royaume va être établi à la fin des temps, dans ce qui nous est décrit au chapitre 20 de l'Apocalypse comme la période du millénium. Ils pensent que le trône de David sera établi à nouveau physiquement à Jérusalem pour 1000 ans. Dans cette période qui nous est décrite comme précédant le retour de Jésus-Christ pour établir son jugement dernier. Et je crois que nous avons à rejeter cette interprétation. Elle ne correspond pas au texte que nous lisons. Parce que le règne de Dieu commence dès la naissance de Jésus-Christ, et non pas au moment du début de ce règne de 1000 ans. Il est dit que ce règne sera éternel. Or, un règne dans le règne de 1000 ans, aussi long soit-il, sera un règne qui prendrait fin un jour. Donc on voit que les conditions décrites de ce règne ne correspondent pas à un règne qui aurait lieu dans cette période de 1000 ans. Après, faut-il encore se mettre d'accord sur quand commence cette période de 1000 ans? Est-elle réservée à la fin des temps ou a-t-elle déjà commencé à partir de la résurrection de Jésus-Christ? Ça, c'est un autre enjeu. Mais le règne qui nous est décrit ici est un règne qui commence à la naissance de Jésus, qui a commencé il y a 2000 ans et qui s'étend aujourd'hui sur tous ceux qui acceptent de se soumettre à Jésus-Christ. C'est un règne qui progresse. C'est un règne dans lequel il n'y a aucune place pour l'oppression et la violence. La quatrième caractéristique qui nous est donnée au verset 6 Et le verset 6 se termine ainsi. Il est dit « Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. » Quand Ésaïe écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ, le royaume de Juda se trouve dans une situation qui est désespérée. À l'horizon pointe l'oppression de l'Assyrie et on se demande comment la lumière pourrait poindre dans cet environnement ténébreux. Qui va permettre que dans ce contexte si noir puisse un jour émerger un royaume de paix? La réponse qui nous est donnée ici, c'est que c'est le Seigneur des armées célestes, dans son ardent amour, qui va venir établir ce royaume de paix. Et pourquoi va-t-il le faire? Parce qu'il nous aime. C'est lui qui va faire tout cela parce qu'il nous aime profondément. Il est le Père à jamais. Jésus, ici, est identifié à la divinité. C'est le Seigneur des armées célestes qui va établir ce royaume. Et en même temps, c'est Jésus qui va établir ce royaume. C'est comme s'il y a une identification entre le Seigneur des armées célestes et Jésus. Et nous avons là une nouvelle indication de la seigneurie et de la divinité de ce Messie. Il n'y a qu'en Jésus que nous allons trouver la délivrance face aux ténèbres qui nous entourent. Il n'y a qu'en Jésus que nous allons trouver la délivrance par rapport à nos propres ténèbres. Et la question qui se pose à nous ce matin, c'est quel accueil vais-je réserver à cet enfant? Quelle est la réponse que je vais donner à l'offre que Dieu me fait au travers de son Fils? Il est possible que j'ai accueilli Jésus dans ma vie il y a bien longtemps, mais que ce soit devenu une sorte d'habitude et que Noël ne représente rien de plus qu'une tradition. Peut-être qu'un jour, j'ai vraiment confessé mes péchés, mais c'était du temps de ma jeunesse. Et avec les années, tout cela a été recouvert par bien d'autres choses. Et vous savez, nous pouvons être chrétiens et vivre relativement loin quand même de la promesse d'un royaume de justice et de paix, simplement parce que nous nous sommes éloignés de Dieu, parce que notre âme est tombée malade, parce que nous nous sommes éloignés du merveilleux conseiller et du prince de paix. Il y a 4 ans, j'avais été impressionné par les paroles de lucidité qu'avait prononcées le pape François, qui faisait les diagnostics de tout ce qui pouvait toucher ses collaborateurs à la Curie au Vatican. Mais bien loin de moi, cette pensée de croire que ça ne toucherait que la Curie. Je crois que ça ne peut tous nous concerner. Il dénonçait toutes sortes de maladies de l'âme. Il dénonçait la maladie de la rivalité et de la vanité, qui a pour effet souvent une mauvaise coordination, qui vient du manque d'esprit d'équipe, et puis qui développe parfois des rancœurs. Il parlait de la maladie du martalisme, un néologisme en référence à la figure de Marthe, Marthe qui est tombée dans le stress, dans l'agitation de la vie et qui n'a plus su se tenir au pied de Jésus. Il citait la pétrification mentale et spirituelle, un mal qui en rejoint un autre, celui de l'indifférence envers les autres, dans une société où l'on ne pense qu'à soi et à son épanouissement personnel. Une autre maladie encore qu'il cherchait à diagnostiquer, c'est celle de l'Alzheimer spirituel. Une maladie qui atteint ceux qui ont perdu la mémoire de leur rencontre avec Jésus et qui du coup se laissent dominer par leurs passions, leurs humeurs, leurs manies. Il dénonçait ensuite la schizophrénie existentielle, cette maladie de ceux qui mènent une double vie. Et à tous ces mots, il ajoutait encore la maladie de la médisance et des cancans, et la maladie du profit mondain, qui ne cherche que l'accumulation des richesses. Ce matin, je suis invité pour cette période de Noël à faire un examen de conscience. Où en suis-je dans ma relation avec Dieu? Comment est-ce que je laisse cet enfant régner dans ma vie? Qui est Dieu pour moi? Est-ce que je veux lui faire confiance? Est-ce que je suis prêt à ne m'appuyer que sur lui seul? Est-ce que je veux le laisser transformer ma vie par son esprit? Jésus, qui est Dieu avec nous. Jésus, qui est notre Sauveur, veut régner dans notre vie. Il veut y faire régner un règne d'amour, un règne de paix. Et j'aimerais vous inviter, alors que nous allons prendre la scène tout à l'heure, eh bien, à venir demander à Jésus de dépoussiérer notre vie, de la nettoyer, de remettre en ordre notre demeure. J'aimerais vous inviter à demander à Jésus d'agir dans votre vie, d'agir dans notre vie. Amen.